Bonjour à tous. Merci à Michel qui m'a donné l'opportunité d'apporter mon regard sur le roi David. J'ai été très béni tout à l'heure quand j'ai vu Philippe et Hélène avec leur bannière. N'oublions pas que ce week-end, nous commémorons l'ascension du Seigneur Jésus. Et c'est le roi. Il y avait cette... Alors, je ne sais pas si ce sera entendu. Hein, vous avez vu la couleur de leurs vêtements et puis des bannières, qui est la couleur de la royauté. Hein.
C'est ça, le roi, la couronne.
Et donc, c'est une belle manière, bien inspirée par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour honorer notre Seigneur aujourd'hui. Et en fait, le cœur de mon message, c'est... que nous trouvions, hein, puisque l'ascension du Seigneur Jésus, c'est aussi notre ascension, hein, puisque nous sommes assis à la droite de Dieu en lui. Le titre de mon message, c'est, il fallait que je trouve un titre, la lecture de David, source de libération. Et mon premier regard que j'apporte, c'est, ce dont j'ai pris conscience il y a quelques semaines, c'est que David était un prophète. C'est vrai qu'on a toujours vu le roi David, ou David en tant que chantre, etc., toute sa vie mouvementée, mais il est aussi un prophète. Hein, c'est ce qu'on voit, je ne sais pas si c'est projeté, acte 2, 30, où l'apôtre Pierre parle de lui en disant, comme il était prophète. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, et son caractère prophétique, c'est qu'il prophétise de manière particulière sur le Seigneur Jésus-Christ. Hein, les autres prophètes ont prophétisé sur Israël, sur Judas, et je ne dirais pas accessoirement, mais aussi sur le Seigneur Jésus. Mais lui, il s'est focalisé uniquement sur lui. Et puis il est celui qui a prophétisé... Il a montré ses souffrances. Ah, j'appuie. Ah, ça se met tout seul. Donc, en psaume 22. Il faut appuyer avec tact. Que je n'ai pas, peut-être. Psaume 22. Au verset 2, il est dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Donc on voit, hein, c'est le message, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a crié quand il avait porté tous nos péchés et que Dieu l'avait abandonné. Alors j'ai été béni cette semaine par une analyse de Jérôme par rapport à ça. Je savais que bon, Dieu l'avait abandonné, mais là, il a montré que quand Dieu l'abandonne, en fait, c'est que le Saint-Esprit s'est retiré de lui. Et ça, je n'avais pas... J'étais resté sur le fait que ben, Dieu l'a abandonné, oui, mais concrètement, ça signifie que le Saint-Esprit l'avait quitté. Donc, c'est, n'est-ce pas, ce que l'apôtre... Ce que David a montré. Et au psaume 16, là... Il prophétise sa résurrection. Oui, c'est peut-être plus sage. Psaume 16. Au verset 8, il est dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Donc ici, et l'apôtre Pierre revient là-dessus, qui c'est le passage type, n'est-ce pas, qui montre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, au psaume 110, que nous connaissons tous, qui montre l'ascension et puis notre Seigneur Jésus élevé en gloire. Psaume 110. Il est dit au verset 1. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et puis il le décrit également comme souverain sacrificateur au verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Alors au cœur de mon message, c'est ce qui est dit au verset 1. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est aussi ce que Dieu nous demande, que nous nous asseyons à sa droite, puisque nous sommes princes et princesses. En Jésus-Christ, nous sommes assis à la droite du Père. Et l'idée principale, s'il y avait quelque chose à retenir de mon message aujourd'hui, c'est que pour un chrétien, on a deux alternatives. Soit on a une attitude de princesse ou de prince, soit d'esclave. Il n'y a pas de demi-mesure. Et quand on est prince ou princesse, en tout cas un comportement de prince ou de princesse, Dieu, il s'occupe de nos ennemis. Mais si on est esclave, ben on est perdant. Donc c'est la seule alternative qui s'offre à nous. Et David, c'est le principal auteur des psaumes. Il n'est pas le seul, mais les psaumes lui sont attribués. La plupart des psaumes ont été écrits par lui. Et je pense que, comme moi, on est tous redevables. Nous sommes tous redevables de David à ce niveau. Et moi, particulièrement, par le psaume 150, quand je suis arrivé en France, et que j'ai un arrière-plan catholique, comme beaucoup de monde, et la première fois à la télévision, j'ai vu dans une église américaine, on dansait. Pour moi, c'était un scandale. C'était un scandale de voir des gens danser dans l'église, jusqu'à ce que je lise le psaume 150, et qui m'a libéré, qui m'a vraiment libéré, vraiment, et c'était extraordinaire. Je veux quand même le lire. À chaque fois que je lis ce psaume, je pense au changement, à cette libération que j'ai connue grâce au psaume 150. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. C'était une véritable libération pour moi et je suis reconnaissant au roi David pour cela. Mais de la même façon, quand on lit les psaumes, on doit aussi être prudent parce que on est quand même sous la loi. Et David, bien qu'il est, comme Dieu le dit, qu'il soit, c'est l'homme selon son cœur, on est quand même sous la loi et la grâce et la vérité sont arrivées par le Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut être prudent quand même quand on lit, je vais prendre un exemple, au psaume 109, surtout quand il y a des imprécations. Et la sorcellerie, on a souvent utilisé la Bible aussi pour la sorcellerie. Et c'est souvent les psaumes de David qu'on utilise, les psaumes. Quand nous les lisons, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Au psaume 109, je vais le lire très rapidement. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom. Car ta bonté est grande, délivre-moi, je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon cœur est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel, mon Dieu, secours-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes ennemis revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Donc on voit ici une alternance de bénédiction pour Dieu et de malédiction. Ça me fait penser à Jacques, qui dit l'eau, une eau amère ne peut pas, on peut pas à la fois, une source ne peut pas à la fois être amère et douce. Donc, prudence. Et je sais que il y a des gens qui, on doit lire des psaumes à certaines heures de la nuit, etc. Donc, on est dans la sorcellerie. Et David, j'ai été au bénéfice de son œuvre et j'ai rarement pris conscience en fait qu'il était l'auteur des psaumes, même si je le savais. Et comment dire, je l'ai découvert, j'ai eu un nouveau regard sur lui il y a 3 ans, je crois, au mariage de Sonia, la fille de Charles et Sylviane. À ce moment, en tous les cas, j'ai eu cette compréhension de David ayant quelqu'un qui est selon le cœur de Dieu. J'avais pris, donc le mariage était à Nîmes, j'avais pris ma réservation d'hôtel pour le samedi. En fait, quand j'ai pris la réservation, j'avais complètement oublié qu'il y avait des heures. Quand on réserve dans un hôtel, on ne vient pas le matin. On a la chambre à partir de midi pour certains. Et je me rends compte le vendredi que je m'y suis mal pris. Je n'ai pas pu joindre l'hôtel. J'arrive le samedi matin à 10h. Et puis j'explique à l'accueil. On me dit, mais non, il y a une chambre qui est prête là pour vous. Et puis vraiment, c'était une grande bénédiction pour moi. Et je tombe sur Claire et Maggie, qui s'étaient chargées de me conduire aux différentes salles de célébration. Je devais partir tôt le matin à 7 heures et le taxi qui m'avait amené, bon, je lui avais demandé s'il pouvait venir me chercher le matin. Ce n'était pas possible, ce n'était pas évident. Il fallait téléphoner quand on part. Et donc, c'était compliqué. Et je me suis trouvé en train de faire un peu de manipulation quand même. Quelqu'un, en essayant de voir si c'était possible pour le lendemain. Mais sans dire clairement les choses. Et le soir, la nuit, dans mon lit, j'étais un peu honteux de mon attitude. Et du coup, j'ai eu cette image de David, homme selon le cœur de Dieu, qui en toutes circonstances, se tournait vers Dieu et qui regardait toutes circonstances selon le regard de Dieu. Et c'est vraiment à cette occasion que, en tous les cas, c'est là ma compréhension de David, homme selon le cœur de Dieu. Et donc le message, l'image que j'ai eue, c'était le texte, hein, les circonstances du combat avec Goliath. 1 Samuel. En 1 Samuel, la première partie, c'est quand il entend parler de... Quand David arrive et que les gens fuient, il dit, donc le message n'est pas affiché, je crois, 1 Samuel 17 au verset 26, il dit, « Qui est donc ce Philistin ? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Et alors, je trouve qu'il faut être prudent aussi là-dessus, parce que c'est pas quelqu'un qui cherche à défendre Dieu. Ce n'est pas un fanatique. Mais là, ce qu'il dit est motivé par la foi, hein, compte tenu de ce que j'avais fait par ailleurs pour lui. Parce que nous n'avons pas à défendre Dieu. Hein. Quand on défend Dieu, on tombe dans l'intolérance. Et donc, on le laisse aller combattre Goliath. Et ce qui est très, très émouvant pour moi, c'est la déclaration qu'il fait avec, à la suite de la déclaration de Goliath. Au verset 41, il est dit, « Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude-là, c'est les enfants d'Israël, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. » Et donc, quand je lis ce passage, chaque fois, je suis très ému. Et donc là, David montre, il est face à Goliath. Mais il ne regarde pas la taille de Goliath, hein, comme ces espions israélites qui allaient espionner le pays et qui se voyaient comme de petits nains face à des géants. Mais là, il regarde, quand on regarde avec le regard de Dieu, je veux dire, aucune situation n'est impossible à notre Dieu. Et donc, David, en toutes circonstances, il s'élève, il regarde la situation avec le regard de Dieu. Et alors, quand il ne peut pas avoir cette foi, mais il se tourne vers Dieu, irai-je, n'irai-je pas, que ferai-je, etc. Donc, à chaque fois, il s'en remet toujours à lui. Et vraiment, ce regard, cette façon de regarder, lui permet de dominer la situation. Et nous, aujourd'hui, je disais tout à l'heure que le point essentiel de mon message, en toutes circonstances, on est soit esclave, soit prince et princesse. Quand on regarde en tant que prince et princesse, alors, il ne s'agit pas d'être prince et princesse selon le monde. Hein, prince et princesse selon le monde, on est au-dessus des autres et puis on a besoin d'être servi, etc. Non, ce n'est pas ça. Prince et princesse, selon Dieu, c'est de s'ancrer en Christ, puisque notre vie est cachée en Christ, et il est assis à la droite de notre Père Céleste, et comme il est dit au psaume 110, « Et je ferai de tes ennemis ton marchepied. » Donc, si on a ce regard, comme il a eu ce regard, même s'il n'avait pas ce privilège d'être assis dans les lieux célestes comme nous aujourd'hui, on est victorieux. Et bon, nos principaux ennemis sont nos ennemis intérieurs d'abord. Je crois que André l'a souligné mercredi dernier à la prière. Et donc, ça a changé tout mon regard sur David. Et À partir de ce moment, David est devenu mon modèle. Modèle dans la façon de regarder Dieu, la façon de considérer les situations, n'est-ce pas, en essayant de me remettre au Seigneur. Mais ça, la difficulté, c'est que ça devienne un réflexe. C'est ça le plus difficile. Et l'autre passage, l'autre texte de David qui m'émeut beaucoup, c'est par rapport à, là aussi que nous connaissons tous, l'incident qu'il a eu avec sa femme, avec Mica, hein, 2 Samuel. C'est un passage qui me plonge beaucoup dans l'émotion. David et sa femme Milka, c'est en 2 Samuel chapitre 6. Je commence par le verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed, Édom, et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de David, de Dieu. Et David se mit en route, il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed, Édom, jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Mica, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au milieu de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple et à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Mica, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Mica. Alors là, c'est ça qui est extraordinaire. « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Mica, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Donc on voit ici que la plus grande sanction pour une femme à l'époque, c'était de ne pas pouvoir enfanter. Et ce passage m'inspire qu'on doit être prudent, on doit faire attention pendant la louange. On est là pour danser, on danse, on chante pour le Seigneur. Et il y a deux choses. Il y a des gens qui dansent, ils veulent danser pour le Seigneur, et qui ne sont pas dans le rythme. Enfin, et qui se retiennent même d'ailleurs de danser parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas dans le rythme. Mais peu importe. Et de toutes les façons, on n'a pas porté de jugement, on n'a pas porté de remarques. On est là pour danser pour le Seigneur. Et pour les personnes qui estiment ne pas être dans le rythme, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le cœur. Ce que nous sommes là, pour, ce que nous sommes pour faire pour le Seigneur. Et il faut danser librement, danser, exprimer ce qu'on a dans le cœur. Une fois, j'avais rencontré une dame, une biologiste qui avait été qui avait été miraculeusement sauvée dans son pays pour à la suite d'une guerre civile. Et elle me disait, petit frère, quand tu vois quelqu'un danser devant l'estrade, lui seul sait ce qu'il a dans le cœur. Et donc, quand les gens dansent, c'est l'expression d'une reconnaissance, c'est extraordinaire. Et il faut laisser vraiment danser librement. Et je dois dire, j'ai assisté une fois, quelqu'un m'avait invité à Paris, à un séminaire de son église, et c'est ce jour-là que j'ai reçu, Dieu se révèle toujours à chacun de nous comme Père, mais il y a des barrières qui nous empêchent, n'est-ce pas, de recevoir, d'accueillir cette révélation. C'est en observant une louange que j'ai eu cette révélation, enfin, pas que j'ai eu cette révélation, Dieu se révèle, que j'ai compris et que j'ai accepté dans mon cœur, même si intellectuellement j'acceptais Dieu comme Père, c'est ce jour-là que j'avais accepté dans mon cœur Dieu, n'est-ce pas, comme Père. J'étais arrivé, j'ai vu les gens danser dans l'estrade avec une allégresse, une joie extraordinaire, librement, avec des tambours. C'était le chant, je chanterai de tout cœur, les merveilles de mon Père. C'était extraordinaire. Et ce jour-là, j'ai accepté dans mon cœur Dieu comme Père. Et depuis ce temps, je peux prier, Papa, Père. Extraordinaire. Parce que ce jour, les gens s'étaient libérés. Ils avaient dansé de façon libre. Et ça m'avait touché. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes dans la louange, si vous avez ressenti le besoin de danser, mais dansez, libérez-vous. Peu importe ce que les gens pensent. Peu importe le regard des autres. Vous ne savez pas ce que votre danse, ce que votre manifestation de joie, d'allégresse peut apporter, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un. Regardez par exemple quand Philippe et puis Hélène sont venus avec la bannière. J'ai regardé, j'ai vu la couleur d'abord. Ensuite, je vois les tenues. Je dis mince, aujourd'hui c'est l'Ascension. Le jour on commémore ce week-end l'ascension de notre Seigneur, où il est monté. Ça a été une bénédiction pour moi. Je ne s'en étais pas rendu compte. Vous voyez ? Donc, cette expression, ça va être libre. Et attention à ne pas se moquer de ceux ou de la manière dont les gens expriment leur reconnaissance au Seigneur. Et le dernier texte qui m'émeut beaucoup, de David, c'est son incident avec Saül. En Samuel 24. Ah oui, ça peut s'afficher là, comme ça m'évite de lire dans ma Bible. 1 Samuel 24. Alors pour le contexte, 1 Samuel 24, je commence par le verset 9. Alors la suite c'est quand, on sait que Saül a passé beaucoup de temps à chercher à tuer David. Et David a une fois l'opportunité de se venger, mais il ne le fait pas. Il coupe un pan de sa tenue et puis il dit, après cela David se leva, est sorti de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici, David cherche ton malheur. » Tu vois maintenant, de tes propres yeux, que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer. Mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Voici mon Père. Vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais j'étais épargné.
Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois dans le pain, dans le pan de ton manteau, vois donc le pan de ton manteau dans ma main.
Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il le regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Et ce qui me frappe ici, c'est quand David dit « il rendra justice ». Je pense que c'est Dieu qui fait justice. Et dans la relation autorité subordonnée, c'est souvent douloureux dans les deux sens. Hein, vous avez, par exemple, l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Dans sa relation d'autorité, le détenteur d'autorité peut souffrir. Souffrir d'injustice, souffrir de mépris, comme celui sur qui l'autorité est exercée peut également souffrir. Donc c'est très très douloureux. Et encore une fois, je pense que dans ce genre de situation, c'est toujours... c'est plus facile, c'est pas un slogan, mais c'est, comment dire, c'est ce que le Seigneur nous permet, nous demande de faire. Dans ce cas d'espèce, je veux me répéter, et c'est pas évident, c'est d'avoir ce comportement de princesse et de prince. C'est très très douloureux, et David est extraordinaire parce que ce qu'il vit, ces expériences, il les a traduites dans les psaumes. Hein? Et là, dans le psaume 37, il dit « Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta lumière comme la justice et ton droit comme le soleil à son zénith. » Donc, c'est Dieu qui fait justice. J'ai déjà fait ce témoignage d'une de mes tantes, la seule qui était chrétienne, paternelle. On l'avait accusée pendant plus de 9 ans d'être... d'avoir ensorcelé quelqu'un, et elle était humiliée, huée dans son... là où elle habitait, tout le quartier. Et elle me dit, je disais toujours à Dieu, fais-moi justice, rends-moi justice, tu sais que je suis innocent. Et elle m'avait raconté ça parce que j'étais lui rendre visite chez son fils dans le 13e, et il y avait une dame qui était venue lui offrir un cadeau. En partant, elle me dit, tu vois cette dame qui s'en va, qui est venue m'offrir ce cadeau. On m'a accusé longtemps d'avoir fait du mal à sa mère. Et au bout de 9 ans, Dieu lui a rendu justice. Au bout de 9 ans, elle a été publiquement disculpée. Extraordinaire. De patience, chaque jour, elle disait, fais-moi justice. Donc, Dieu fait justice. Et ça j'y crois. Dieu fait justice. Et maintenant, comment dire, personne, à part nous, à part moi, personne ne peut m'empêcher de devenir ce que Dieu a prévu que je sois. Il n'y a que moi qui peux empêcher que ça le soit. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, impossible. Donc, on voit l'exemple de David ici. David aurait pu se venger. S'il s'était vengé, il se mettrait sous la malédiction et ça m'aurait étonné qu'il devienne roi. Pourtant, il a marché dans l'humilité, il a marché dans la droiture. Il a marché dans l'obéissance. Et d'ailleurs, le roi Saül reconnaît, il dit au verset 17, « Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ses paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il poursuivre tranquillement son chemin ? On est sous la loi. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Donc Saül reconnaît la justice de David et en quelque sorte, il intronise David. Et donc, on voit ici le droit de David, n'est-ce pas, qui apparaît au bon moment, lorsque le soleil est à son zénith. Alors maintenant, concrètement, comme c'est pas un slogan, quand je dis on a deux alternatives, soit être des princes ou des princesses, soit être des esclaves. Alors, maintenant, comment faire pour rester prince et princesse? Et dans le cas d'espèce, je fais une suggestion en pensant à ce que dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 6. La première partie de ce que je vais lire est hors contexte, mais la conclusion nous intéresse. Donc il s'agit des dissensions dans l'Église et puis du fait que ce sont des non-croyants qui sont amenés à faire justice. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Alors là, c'est à ma conclusion, ce que l'apôtre Paul demande, qui n'est pas facile. Hein. Il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Et ça, on me dira, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais et c'est là la puissance de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il nous donne les moyens, justement, de le faire. Le Seigneur Jésus-Christ, il a souffert, il a vécu toutes les émotions que nous pouvons traverser dans un conflit. Conflit avec l'autorité, conflit d'autorité avec les subordonnés. Et toutes ces émotions, il les a vécues. Mais il les a vécues à l'avance, pour nous. Et donc, c'est à nous, comme nous sommes en lui, de lui transférer ce réflexe, de lui transférer ce qu'on ressent. C'est ça, la rapidité de transfert. Et ici, c'est une proposition individuelle, c'est-à-dire que c'est une démarche individuelle que chacun devrait pouvoir faire. Je reconnais que ce n'est pas évident, mais quand ce n'est pas évident, on demande toujours le secours à notre Seigneur. Et Hébreux 2, où le Seigneur montre, par l'intermédiaire de cet auteur, qu'il a vécu toutes ces choses avant nous et pour nous. Sauf qu'il les a vécues sans péché. C'est ça la puissance de la chose. Si nous voulons vivre ça nous-mêmes, nous allons forcément pécher. Hébreux 2, verset 14, il est dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous voyez, quand Vous vivez un sentiment d'injustice ou de mépris ou de manque de considération, de perte d'identité, de dépouillement. C'est quelque part... Pourquoi est-ce qu'on réagit? Parce que c'est un peu un synonyme de mort. Quand on manque de considération pour vous, quand on vous méprise, ben vous êtes moins que rien. Donc, c'est un peu de la mort. Et donc, quand on réagit, c'est un peu, bon, on craint un peu, on défend un peu. Et quand on le fait, on tombe dans la servitude, l'esclavage. Oh, le Seigneur nous en a délivrés. Verset suivant, « Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » Nous faisons partie de la postérité d'Abraham par le fait qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ. « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Donc, quand on est l'objet d'un mépris, quand on est l'objet d'injustice, c'est une tentation, comme toute autre tentation. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, il a vécu ça. Il a été condamné injustement, il a été dépouillé, vous voyez, quand on lui a retiré ses vêtements, il y avait une forme de dépouillement aussi. Et il a été méprisé, il a été humilié. Et dans tous ces conflits, relations autorités subordonnées, c'est ce genre de sentiments qu'on éprouve. Sentiments de mépris, d'injustice, de dépouillement, d'humiliation, de négation d'identité même. Or, le Seigneur a vécu tout ça. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous le transférions. C'est ça, l'échange divin qui s'est produit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, à la fois avant sa crucifixion, pendant sa crucifixion. Il a vécu toutes ses émotions à notre place. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, le réflexe. En tous les cas, je peux témoigner personnellement que à chaque fois où j'ai vécu des émotions, pas simplement dans la relation avec l'autorité, mais et ensuite, chacun de nous, en tous les cas, un moment à un autre est autorité et subordonné à l'autorité. Donc il y a aussi de la cohérence. Mais en tous les cas, à chaque fois que j'ai vécu des situations où j'avais des sentiments ou des émotions fortes qui pouvaient me pousser à pécher et que j'ai fait cette démarche de transférer au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tu as vécu ça à ma place. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, Seigneur, tu vois ce que je ressens. Mais là, il faut reconnaître devant le Seigneur ce qu'on ressent. Il ne faut pas dire, c'est pas grave, ça passe. Non, il faut le reconnaître. Voilà ce que je ressens dans mon cœur par rapport à ce que j'ai vécu. Alors, Seigneur, je sais que tu as vécu ça aussi. Alors, je te le transfère. Libère-moi de cela. Et là, on est capable d'aimer nos ennemis. On est capable de prier pour ceux qui nous maudissent, de bénir ceux qui nous maudissent. C'est extraordinaire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Donc ça nous pousse à avoir un regard, à nous élever, parce qu'on est en Christ. Notre vie est cachée en Christ, dans les lieux célestes. Donc, à ce moment, on a un comportement de prince et de princesse, et on est en victoire. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Que vos cœurs soient bénis.
Je voudrais particulièrement remercier Ruben. Et je suis toujours émerveillé de la facilité que les Africains ont pour comprendre les choses spirituelles, malédiction, bénédiction, sorcellerie, etc. Voilà. Un jour que le Seigneur m'avait révélé des choses sur cette église et sur l'axe sur lequel de puissance qu'on est, je suis allé timidement voir Mamadou Karambéry et puis j'ai dit, je veux un entretien personnel avec toi. Et puis voilà, quand je lui ai expliqué ce que le Seigneur m'a révélé, il commençait à rigoler, il dit, Bien sûr, en Afrique, on sait tout ça. Mais je ne peux pas le dire au pasteur français parce qu'il ne me croirait pas. Et donc, on a eu un échange très, très long. Michel était là. De dire, bah oui, tout ce que le Seigneur t'a montré, c'est vrai. Et voilà. Donc, je vois que cette facilité que vous avez à identifier les problèmes démoniaques, etc., mais en l'intégrant à votre vie, quoi. Et ce n'est pas plaqué, c'est vraiment vécu et c'est profond. Et c'est une réalité. Une réalité que nous, on ne connaît pas trop en France, peut-être dans les pays un peu au fin fond de la Bretagne, au fin fond des campagnes encore, où voilà, on fait des pratiques de ce genre. Voilà, les choses sont un peu mieux connues, mais dans les villes et tout ça, et surtout avec la raison, à cause de la raison, tout doit être raisonnable, on veut tout rationaliser. Et en fait, la vie réelle, il y a aussi d'autres influences. Et si on n'en tient pas compte, eh bien, on est dans la naïveté. Donc, merci Ruben pour ça et pour cet éclairage qui nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à bien intégrer les choses dans aussi cet exemple de David.